Bonne année et surtout bonne santé. Voilà le refrain que nous répétons et recevons chaque année après minuit le 31 décembre et que nous pouvons partager jusqu'au 31 janvier. Il va sans dire que c'est une coutume conviviale et bienveillante qui se perpétue au moyen aussi de cartes de vœux, de SMS, de messages vocaux et bien entendu en vis-à-vis. C'est une convention, il faut y participer, au risque de passer pour un rustre. Mais outre cet aspect conventionnel, il est vrai que c'est agréable de recevoir des bonnes paroles qui marquent l'entrée dans une nouvelle année. De plus, à moins d'être un peu tordu, ces paroles « bonne année » et « bonne santé » sont honnêtes et se veulent performatives, c'est-à-dire efficaces. Oui, c'est vrai, nous avons vraiment envie que nos proches, les personnes que nous côtoyons et les plus lointaines, se portent bien et puissent vivre une année remplie de joie et de bonheur. Cela dit, toute cette bienveillance que nous voulons donner sur notre nouvelle année et celle des autres se fissure souvent assez vite au cours de l'année. Combien de familles, rien que dans notre communauté et nos proches, sont déjà touchés par la maladie, le deuil ou un bouleversement de vie. Nos souhaits de bonne année s'effondrent alors vite devant les tempêtes plus ou moins fortes qui vont frapper nos vies. Prenons le fameux « bonne santé ». Celui-là résonne dans une situation où votre santé est fragile, alors il tombera dans le vide. Pire, il pourra même accentuer votre douleur, reçue comme une injonction à aller bien alors que ce n'est pas le cas. Notre texte biblique raconte une tempête. Nos textes bibliques racontent des tempêtes. Pour le texte d'Évangile, il me semble que Jésus n'aurait pas forcément été un adepte du « bonne année et bonne santé ». Dans notre texte, Jésus appelle plutôt à la confiance. Il part au cœur de la tempête et y entraîne les autres. La vie aux côtés du Christ ne consiste pas à se contenter de son succès ou de ses discours, de l'impact de ses miracles, de profiter tranquillement de sa popularité. Jésus ne se repose pas sur ses acquis. Il est en marche. Il part, repart. Il n'a pas de lieu où poser sa tête. Ou plutôt si, uniquement dans notre texte, vous l'avez entendu, au fond d'une barque, sur un coussin. « Embarquons et passons sur l'autre rive, » dit-il à ses amis. « Vivons, sortons de nos zones de confort, allons voir ailleurs. » Et rapidement, en route vers cette rive nouvelle, le vent se déchaîne et la barque est menacée. Rien ne nous est dit vraiment de l'attitude des disciples. Le texte de Marc est très bref. Voilà qu'un vent violent se met à souffler, les vagues se jettent dans la barque et elle se remplit d'eau. Jésus, lui, dort sur un coussin à l'arrière du bateau. Ses disciples le réveillent et lui disent « Maître, nous allons mourir, cela ne te fait donc rien ?» Nous imaginons quand même qu'en marin averti, comme l'étaient tous ces hommes-là à cette époque, les disciples qui étaient pêcheurs de formation ont sûrement d'abord essayé de manœuvrer l'embarcation pour braver la tempête. Mais il semble que les éléments soient à un tel point déchaînés que la situation leur semble désespérée et la panique les gagne. Sauf pour notre marcheur dormeur qui profite du sommeil du juste. Les disciples le réveillent avec cette constatation « Nous allons mourir », suivie d'une question accusatrice. Cela ne te fait rien ?» Les disciples paniquent et, dans leur peur, interpellent Jésus de façon brusque. Ils auraient peut-être pu lui demander son aide au lieu de l'accuser d'indifférence. « Nous allons mourir, maître, aide-nous !» Mais non, il l'accuse. Il est vrai que la peur peut nous faire sortir de nous-mêmes et nous conduire à dire des mots qui nous dépassent. Et puis, c'est un réflexe très humain d'essayer de trouver un responsable de la situation difficile dans laquelle nous pouvons nous trouver. La voiture tombe en panne et c'est le garagiste qui n'a pas bien fait son boulot à la dernière révision. Une mauvaise appréciation de nos supérieurs et c'est la grille d'évaluation qui est dépassée. La pratique religieuse s'effondre et c'est l'Église qui est vraiment ringarde. L'histoire de Jonas que nous avons aussi entendue offre de très beaux échos avec notre texte d'évangile. Deux personnages principaux, Jonas d'un côté et Jésus de l'autre, s'embarquent sur un bateau pour changer de rive. Peu de temps après, une tempête s'abat sur leur navire. Panique à bord. Toute cette agitation ne dérange en rien nos deux héros qui, eux, vont dormir profondément dans leurs embarcations. Puis ils seront d'eux-mêmes tous les deux réveillés par le reste de l'équipage. Et leur réveil aboutit à la fin des tempêtes, grâce au domptage des éléments, par Jésus ou par le Seigneur Yahvé. Qui est le coupable de la tempête ? Les marins qui sont avec Jonas ont trouvé un moyen pour le moins cocasse de le deviner. Tirons au sort pour connaître le responsable du malheur qui nous arrive. Les disciples de leur côté font de même. Ils cherchent quelqu'un à réprimander pour soulager leur peur. Et Jésus, en se réveillant, ne s'occupe pas tout de suite du cas des disciples, mais part au plus pressé. Il s'adresse au vent. « Silence, calme-toi. » Et sa paix se transmet aux éléments et aux disciples. Ensuite, Jésus se tourne vers les disciples et répond enfin à leurs questions. « Pourquoi avez-vous peur ? N'avez-vous pas encore de foi ?» Elle peut nous paraître rude, cette réponse du maître. Nous pourrions rapidement nous faire les avocats des disciples. Ils ont eu peur. Parce que la barque était en train de couler, et oui, ils ont pensé que tu les avais abandonnés parce que toi, tu dormais, au lieu d'être solidaire dans le malheur. Si Jésus leur répond aussi durement, ce n'est pas parce qu'il ne prend pas en compte leur peur, ce n'est pas parce qu'il veut nier les dangers de la tempête, mais il souhaite pointer leur incapacité à demander de l'aide, leur incapacité à l'accepter comme maître de leur vie. Il ne leur reproche pas de ne pas être des super-croyants qui acceptent tout sans broncher et qui arriveraient même à trouver du sens à la souffrance. Non. Mais il leur reproche de manquer la confiance. Les disciples, en disant à Jésus « Maître, nous allons mourir, cela ne te fait rien », ont manqué leur but. Dans l'attente de leur maître. Eux l'ont réveillé pour lui reprocher de ne rien faire. Jésus leur répond, « N'avez-vous pas encore confiance en moi, qu'il faut que vous m'accusiez de ne rien faire ? Nous cheminons ensemble depuis quelque temps. Vous avez entendu mes paroles, vous avez vu ma puissance, mais vous n'avez pas encore confiance. » Vous m'accusez et sous-entendez que votre sort m'est indifférent. » Ces paroles du maître, bien sûr, nous rejoignent. Souvent, nous ne sommes pas bien plus avancés que les disciples. Il nous arrive de le considérer comme comme coupables de nos propres insuffisances. C'est le fameux « pourquoi moi ?»« Pourquoi lui ?»« Pourquoi maintenant ?» Alors que la foi appelle plutôt ce cri « Viens Seigneur, viens à mon secours !» Jésus nous demande de lui témoigner de notre foi en l'appelant en vérité. Il n'existe pas de super-héros de la foi qui ne doutent jamais, qui n'ont jamais peur, qui ne craindraient ni vent ni tempête. Cela n'existe pas. Il nous arrive tous d'avoir peur, de douter, d'être désespérés. Alors, appelons-le, appelons notre Maître, et selon sa promesse, il sera notre secours et notre paix. Pour nos vies, sans le Dieu de Jésus-Christ, nous sommes une barque à la dérive. Et en définitive, dans notre texte d'évangile, nous constatons que malgré leur mauvaise façon de s'y prendre, les disciples sont sauvés du chaos. Alors pour cette année nouvelle, puisqu'il en est encore temps, je nous souhaite confiance et espérance pour affronter les tempêtes de nos vies. Et je nous souhaite aussi de pouvoir témoigner autour de nous de cette présence extraordinaire de Dieu dans nos vies. Et de témoigner aussi que nous pouvons compter les uns sur les autres, unis dans notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.